Ok. À la fin du chapitre précédent, à la fin du chapitre 3, on avait posé une question très simple. On avait dit, étant donné que nous savons la vérité qui est, comme on a appris dans la paracha Bereshit la semaine dernière, que toutes les créatures sont générées à chaque instant par HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que c'est pas comme les autres pensent que Dieu a créé le monde il y a 5780 années, et après, le monde tourne. C'est ce que les autres pensent. On a démontré longuement, ceux qui veulent peuvent revenir au chapitre 3 pour revoir la preuve, on a démontré clairement que c'est une erreur de penser comme ça, une erreur fondamentale, qu'on ne peut pas dire que Dieu a créé le monde et qu'il a ensuite abandonné la terre. Dieu continue de générer le monde à chaque instant. Et s'il arrêtait de le faire, ne serait-ce qu'un seul instant, le monde cesserait d'exister illico presto. C'est ce qu'on a expliqué. Sauf que, on a terminé le chapitre 3 avec une question fondamentale. Si tu me dis que Dieu génère le monde à chaque instant, ça veut dire que chaque élément doit avoir conscience de sa source, qui est HaKadosh Baruch Hu. Et donc chaque élément devrait s'annuler constamment devant HaKadosh Baruch Hu. Je vais expliquer clairement la question, parce qu'il ne faut pas que ça reste abstrait, la question doit être claire. À partir de quel moment un sujet prend l'autonomie? C'est comme dans une entreprise. À partir de quel moment un employé commence à prendre l'autonomie? C'est quand il n'a pas le patron qui lui traîne sous les pattes, qui est toujours autour de lui. Dès que tu as le patron qui est toujours autour de lui, qui est toujours en train de voir chaque chose qu'il fait, et toujours en train de lui dire « tu vous ferez ci, vous ferez ci, vous ferez ci, vous ferez ça », l'employé n'a aucune autonomie. À quel moment l'employé commence à prendre voler de ses propres ailes? C'est quand petit à petit le patron se retire, il lui donne moins d'instructions, et lui, petit à petit, il commence à comprendre de lui-même, développer, évoluer. On est d'accord? C'est ça que ça fonctionne dans l'entreprise. C'est-à-dire au début, quand tu commences, il faut tout lui dire. Et donc, il n'y a rien qui est à son crédit. Et plus on avance, et plus il est autonome. Cependant, avec HaKadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Bonsoir. Avec HaKadosh Baruch Hu, on nous dit que HaKadosh Baruch Hu génère le monde à chaque instant. Alors, si Dieu génère le monde à chaque instant, comment se fait-il qu'on ne le ressent pas? Comment se fait-il qu'on a des éléments autour de nous qui ont l'air autonomes? Comment c'est possible? Étant donné que c'est renouvelé à chaque seconde. Si ce plastique avait été créé il y a 5780 années, je peux comprendre qu'avec le temps qui avance, bah, il a pris son autonomie. Mais puisque tu me dis que ce plastique est généré à l'instant même où je suis en train de te parler, alors comment ce plastique peut-il avoir ne serait-ce qu'une pseudo-autonomie? Comment c'est possible? Ok? Donc la question est une question. Et pour répondre à cette question, on va commencer chapitre 4. Dans lequel il va nous donner, il va rentrer dans des dimensions complètement nouvelles. Perek Dalet, qui est inactive. Voici qu'il est écrit. Donc en fait, c'est une suite directe au chapitre précédent. Voici qu'il est écrit. Bonsoir. Qui shemesh umagen, Hashem Elokim. Ça, on le dit dans les psaumes. Bonsoir. Qui shemesh umagen, Hashem Elokim. Hashem et Elokim est comparé au soleil et au bouclier. Soleil et le bouclier. Alors, là, on va faire un peu de d'astronomie. Il me semble qu'on avait démarré le début du chapitre 4. D'accord ? Mais on reprend tout de suite. On reprend quand même. Quel est le rôle du soleil ?
D'éclairer.
Le rôle du soleil, c'est de donner de l'énergie. Le problème, c'est que l'énergie du soleil est tellement puissante que si on ne s'en protège pas, on risque de brûler. Donc, HaKadosh Baruch Hu a besoin de créer un
bouclier.
C'est quoi ce bouclier?
Protection.
Concrètement, c'est quoi ce bouclier? Ça peut être plein de choses. Ça peut être la couche d'ozone, ça peut être les nuages, ça peut être l'atmosphère simplement. Ça peut être la distance, ça peut être beaucoup de choses. C'est un bouclier. Maintenant, les deux sont utiles. On a besoin du soleil et du bouclier. Parce que le bouclier sans soleil, il ne sert à rien. C'est un bouclier. Et le soleil sans bouclier, il brûle. Donc il est contre-productif. Donc pour avoir une productivité, il me faut le soleil et bouclier. De la même façon, dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, nous avons beaucoup de noms. Hachem, Elohim, Tsevakot, plein de noms. Mais les deux noms principaux d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Hachem et Elohim. Partout, quand on fait une bénédiction. Baruch Ata Hachem Elokeinu. Tout le temps, les deux noms qui reviennent le plus souvent d'Hachem, c'est quoi? C'est Yud-Ke, Vav-Ke, Hachem, Elohim. Ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle ces deux noms vont toujours de pair, Parce que le premier de, ce, de ces noms est comparé au soleil, à l'énergie. Et le deuxième de ces noms, Elohim, est comparé à Magen, au bouclier. À celui qui réduit et qui adapte la lumière. On va expliquer pourquoi il faut les deux. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est de comprendre comment c'est possible d'arriver à une situation que Dieu génère le monde à chaque instant, et pourtant on ne le voit pas. Ok, on y va ? Donc, il faut se reprendre petit à petit dans le fil. Voilà, servez-vous. Faites une petite bracha. Une question ? Oui.
5780.
Ouais.
C'est à partir de Bereshit, de Beth de Bereshit, ou c'est à partir de la fin du Yamashishi ?
C'est à partir de ?
De la fin du Yamashishi.
Non, c'est à partir de Beth de Bereshit. C'est le début. Parce que ça durait 6 jours, 6 jours. Il y a eu plus de soirée, plus de jour. Ouais. Je sais qu'il y en a qui veulent expliquer que c'est les jours qui étaient des milliers d'années, etc. Au sens littéral, c'est. On te dit, il y a eu un soir, il y a eu un jour. C'est une journée, 24 heures.
Ah bon, c'était 12 heures, tu disais.
Ça a toujours été des journées de 24 heures. Mais avant, avant le déluge, les journées n'étaient pas variables comme aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui crée la variation des journées ? C'est les saisons. Et pourquoi il y a les saisons ? C'est à cause de l'axe de la Terre qui a été modifié. Comme l'axe de la Terre est modifié, donc du coup, on a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, etc. Enfin, comme vous connaissez. Mais si, de base, quand Hachem a créé le monde était toujours, toutes les journées, c'était tous les jours, c'était 12 heures de jour, 12 heures de nuit, peu importe l'endroit dans le monde où on était. Partout dans le monde. Parce que ce qui fait les saisons, c'est l'axe de la Terre. Vous savez que l'axe de la Terre a bougé, en fait. C'est pas grand-chose, hein, quelques degrés. Mais quelques degrés, c'est suffisant pour... On dit que c'est quelques degrés, c'était au Maboul, comme ça on dit. C'est une référence, tout ça. Bon, revenons à notre histoire. Donc, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu a deux noms. Le nom de Hachem et le nom d'Elohim. Le nom de Hachem, c'est l'énergie. Et le nom d'Elohim, c'est le bouclier. Alors, il va expliquer tout de suite. On va aller dans les mots. Kma Marazal, comme il est écrit... Donc là, je tourne la page. Pirouche Magen Antik Lachemesh. Là, on s'est arrêté là, page 48. Le Hagen Abriot Chirlou Le Savlo. Le rôle du bouclier, c'est de protéger les créatures pour que les créatures puissent supporter et profiter de la lumière du soleil. Dans la vie, c'est comme ça. Tout dans la vie est comme ça. Tu as une énergie et tu as quelque chose qui adapte l'énergie. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Tu es dans le soleil, dans l'électricité, dans tous les domaines de la vie. T'as de l'énergie, t'as l'énergie brute, et après t'as un élément qui va adapter cette énergie. Toujours. Ok? Alors, il continue. Kmahamarazal, comme il est écrit, Léati de la voix, Kadajorum Otsirama Minarteka. Lorsque Mashiach viendra, Dieu fera sortir le soleil de son étui. Puisque vous savez que le soleil a beaucoup de facultés, dont des facultés qu'on ne connaît pas. La faculté principale que nous connaissons du soleil aujourd'hui, c'est lumière. Le soleil donne la lumière. On sait aussi aujourd'hui que le soleil donne de l'énergie. Mais est-ce qu'on arrive à réellement à profiter de l'énergie du soleil ?
Oui.
On arrive, mais très peu.
Les panneaux solaires.
Oui, mais c'est très, très, très...
Il y en a qui profitent, mais c'est pas...
Si je vous dis, par exemple, aussi que la lumière du soleil est capable de guérir.
Oui, oui.
Le soleil a la faculté de guérir. Ça, encore une fois, on ne le connaît pas vraiment. Si je vous dis que le soleil a la capacité de faire pousser les choses, aujourd'hui on sait que ça fait pousser, mais de façon encore meilleure. C'est les facultés qu'on ne connaît pas encore. Lorsque Mashiach viendra, Dieu va débrider toutes les facultés du soleil. Physiquement. Physiquement, c'est-à-dire que le soleil, c'est pour ça on dit que lorsque Mashiach viendra, ben les tzadikim vont guérir avec le soleil. Le simple fait, Dieu va débloquer les facultés du soleil, il y a des choses qui vont se passer. Par exemple, quand on te dit que lorsque Mashiach viendra, le jour même où on plantera,
Pardon.
Hein?
Non, je voulais juste montrer un truc.
Très bien. Alors, oui. Mais on va là. Beaucoup plus loin là. C'est très limité ça. Si on arrivait à canaliser l'énergie du soleil, on n'aurait besoin d'aucune centrale atomique, de rien du tout. D'accord. Mais on est très 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 loin encore.
Ouais.
Bon, revenons à notre sujet. Donc en fait, lorsque ma chair viendra, par exemple, c'est écrit que lorsque ma chair viendra, le jour même où on plante, ça va pousser. Comment ça pousse en un jour ? Aujourd'hui, ça marche pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fonctions qui sont bridées, qui ne sont pas débloquées. Mais lorsque ma chair viendra, ça sera débloqué. Donc, ce même soleil qui sera débridé et qui va justement guérir les tzadikim, etc., etc., et qui va débloquer des fonctions dans le monde, ce même soleil brûlera les réchaïm. Puisque les réchaïm, ils ne seront pas, immunisés pour recevoir ces lumières. Donc du coup, pchik, ils vont brûler. C'est ce que dit la Gemara. C'est une image qu'on veut nous amener, évidemment. D'abord, le soleil, c'est au sens littéral. Mais c'est une image pour nous montrer que c'est pas parce que l'énergie est grande que ceux qui en bénéficient vont en bénéficier plus. Parfois, l'énergie est tellement forte que celui qui en bénéficie, concrètement, il ne va pas en bénéficier, ça va le brûler. Vous voyez l'image? C'est comme ça dans la vie. Ça, les gens, ils pensent, si j'ai un peu d'argent, je vais bien. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais mieux. C'est pas forcément le cas. On demande à Hachem beaucoup d'argent. Mais on demande à Hachem aussi qu'avec beaucoup d'argent, hein, tu arrives à rester bien. Voilà. Ça, c'est pas gagné, ça.
Ouais.
Parce que beaucoup de bracha ne veut pas dire beaucoup de bonheur.
Ouais.
On soit clair. Bon, donc, on a toujours besoin du shemesh et du magen. Du soleil, l'énergie, et du bouclier qui va avec, pour que tout soit cadré. Et ça, on le retrouve dans un pasouk du roi David, qui nous a dit qu'il shemesh ou magen Hachem Elohim. Que le soleil et le bouclier, c'est une image pour nous permettre de comprendre Hachem Elohim. Hachem, le nom Hachem, c'est le soleil, Elohim, c'est le bouclier. Alors, on y va. D'accord? Donc, Deshem Avaya, au milieu de la page 48, j'accélère hein, parce qu'on a déjà fait ça. Pirouche Shem Avet Ekol Meil Yesh. Le nom Yudke Vavke, le premier nom d'Hachem. C'est quoi Yudke Vavke? Yudke Vavke, c'est l'énergie constante d'Hachem. Parce que, quelle est l'origine du mot Yudke Vavke? Yudke Vavke, on a d'abord le mot Hove.
Hove
qui veut dire créer. Et le Yud Hove, ça veut dire, le Yud en hébreu signifie la constance. C'est un, comme une sorte de présent perpétuel. Ça veut dire l'élément créé, qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que Yehovah, je le dis, hein, vraiment, on n'a pas à le dire, d'accord, mais c'est le nom, ça représente la création d'Akadosh Baruch constante, qui s'arrête jamais. D'accord, on n'a pas le droit de dire ce nom. Nous, aujourd'hui, on dit Ado, etc. Mais c'est juste pour vous dire que quelle est l'origine de ce nom. Yud Kevavke. D'accord. Ou que depuis Rash Rashi, elle passe où Karayesev Kolayami. Bon. Je passe à la page suivante maintenant. Et là, on va commencer le nouveau, enfin la suite. Veinu achayut anishpa bechol rega mamash bechol abruim. Concrètement, qu'est-ce que le nom Yudke Vavke? Concrètement, il s'agit de l'énergie divine qui, à chaque instant, vraiment, est là en train de faire vivre toutes les créatures. C'est-à-dire que si maintenant, concrètement parlant, si devant moi j'ai un verre avec du coca, ça veut dire qu'il y a le nom Yudke Vavke, et c'est le nom Yudke Vavke en personne qui est en train de générer avec l'énergie le coca et le verre qui est ici. Ça, c'est Yudke Vavke. Obligatoirement. Dès que tu as un élément créé ici, c'est qu'il y a forcément une énergie divine qui passe par Yudke Vavke. Si vous voulez, on pourrait donner l'exemple, c'est comme dans une voiture, tu as un moteur. Si la voiture, elle bouge, c'est que forcément le moteur a tourné. C'est sûr. Maintenant, à quelle vitesse le moteur a tourné? Est-ce qu'on a vu le moteur? Est-ce qu'on n'a pas vu le moteur? Est-ce qu'on a entendu le moteur? Est-ce qu'on n'a pas entendu le moteur? D'accord? Ça, c'est une autre question. Mais si la voiture a bougé, c'est que forcément, il y a un moteur derrière qui a fait tourner la voiture. Donc, de la même façon, chaque élément d'énergie qu'on voit ici autour de nous, chaque élément créé, c'est que forcément, il y a le nom Yud-Kevavke qui est là. Bon, très bien. Le nom Yud-Kevavke qui est en train de le générer. Ou mais aviota meilej b'chol riga. Qui l'odaïla m, page 49. Qui? Car il ne leur suffit pas d'avoir été créé durant les 6 jours de la création, comme on l'a expliqué plus tôt. Très bien. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, on a besoin constamment de l'énergie divine, Yudke Vavke, et de Elohim qui est là, qui est le bouclier, qui va essayer de contrôler, de condenser et de faire en sorte que tout cela ne soit pas contre-productif, comme on l'expliquait.
C'est comme une centrale nucléaire, en fait.
Alors, justement, maintenant, la question, c'est comme une centrale nucléaire, mais là, on a une vraie question. Dieu est-il bon ou rigoureux? La question est très importante parce que ça va être la clé de la réponse pour tout comprendre.
Les deux.
On vient de passer par des fêtes. Les fêtes de Tishri.
Si on fait l'allusion avec le soleil et le magen.
Alors, attendez. D'abord, oubliez le soleil. On vient de passer par les fêtes de Tishri. C'est des fêtes dans lesquelles on a eu beaucoup de sentiments assez paradoxaux en vérité.
Oui.
On a commencé par le mois des Louls, après on a eu Rosh Hashanah, après on a eu Kippour, après on a eu Sukkot, après on a eu Simchat Torah. Et si je dis bon, concrètement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Dieu, c'est plutôt quelqu'un de bon, de gentil, ou Dieu est plutôt quelqu'un de rigoureux? Non, rigoureux, ça ne veut pas dire méchant. Rigoureux, ça veut dire qu'il dit comporte-toi comme il faut, et après je te donne ce qu'il faut. C'est difficile à répondre à la question.
Si, parce que en réalité, il est les deux à la fois.
Alors. Oui, mais je comprends. Mais concrètement, c'est. Est-ce que Dieu est plutôt bon ou plutôt rigoureux?
Hanon verahum d'un côté, et d'un autre côté, il dit qu'il est rigoureux.
Ah oui, mais c'est compliqué.
C'est évident que le rigoureux, il est bon à 100%.
Vous savez où on retrouve ça? On va reprendre la Mida. Baruch Ata Hashem, béni soit-tu l'Éternel, et le Kanou, et le Kavotenu. Et le Kavraham, et le Kaitzraham, et le Yaakov. Dieu d'Abraham, le Sraq, et Dieu de Yaakov. Continue la suite. Hakel, le Dieu. Hagadol, qui est grand. Agibor, qui est puissant, Véanora et redoutable. On va analyser ces trois éléments-là. Grand, puissant et redoutable. Quand je vous dis grand, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inspire quelqu'un qui est bon ou quelqu'un qui est rigoureux? Grand, je dis qu'il est grand. Agadol. Dites pas ce qui vous passe par la tête.
Son mot est bizarre, il a été modifié par le Rizal. Dans le...
Bon, mais tel qu'on l'a maintenant. Agadol, Dieu qui est grand. Grand Dieu, le grand.
Donc, il restait de
ça. Grand, ça veut dire quoi grand?
Si c'est devenu à pouvoir.
Bon. Mais ouais, attention, non, ça, non. Si nous pouvoir, c'est le deuxième. Agibor, le puissant.
Bon, le grand aussi, quand il est grand.
On dit que quand je vous dis le mot grand, je dis ah, Dieu il est grand, Dieu est grand.
Non, non, ne dis pas ça. Hein? Parce que si on traduit, c'est mal.
Hein? Dieu est grand. Le terme grand. Le terme grand veut dire. Que Dieu est gentil, que Dieu est chesed. Mais juste après, tu dis, il est puissant. Ah, puissant, c'est déjà.
Il n'est pas chesed alors.
C'est une bonne question. Ah, mais je parle de la connotation. Après, tu as dit. Ok, on dit après. On commence par Avraham. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Avraham, c'est quoi? C'est la bonté. Yitzhak, c'est quoi? C'est la rigueur. La même façon. Hakel, Agadol, le Dieu qui est grand. Grand, ça veut dire quoi grand? C'est-à-dire qu'il donne, c'est-à-dire qu'il est grand, il est large. Gibor, c'est qu'il est puissant. Puissant, ça veut dire qu'il y a le mot Gvura, qui veut dire. Qui contrôle. Après, il y a une aura redoutable. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'Amida, en fait, on n'arrête pas de jongler entre les deux. Et je reprends. Baruch Ata Hashem Elokenu. Elokenu, donc il y a Hashem Elokenu. Hashem, c'est la bonté. Elokim, c'est la rigueur qui contrôle tout ça. Ensuite, Eloke Avraham, c'est la bonté. Eloke Yitzhak, c'est encore une fois la rigueur. Eloke Yaakov. Après, Hakel, Hagadol, la grandeur, donc Chesed. Après, Gibor.
Alors, c'est une chose et son contraire.
Non, justement. Non. C'est ça le chidouche de ce chapitre. C'est que celui qui n'a pas une vue d'ensemble, il est perdu. Il dit, je comprends pas, c'est qui Dieu?
Donc,
est-ce que Dieu, il est plutôt bon? Ou est-ce que Dieu, il est plutôt rigoureux? Et là, l'image du soleil est la réponse parfaite.
Ben c'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Magen. Et
voilà. L'image du soleil, c'est qu'en vérité, on te dit, tu dois comprendre que Dieu est intrinsèquement bon. Et Dieu est d'abord et avant tout bon. Dieu, il donne. Seulement, comme il peut pas tout donner d'un coup, parce que s'il donne tout d'un coup, tu exploses. Donc, il doit contracter ce qu'il te donne.
Alors, donc, on le compare ici au soleil et le truc le magasin.
Oui, il a tout compris, M. Benida. Voilà. Ouais, Razak. D'accord? Donc là, vous voyez, là, on commence à comprendre comment des notions qu'on voit tous les jours, dans la Mida partout, on commence à comprendre comment ce n'est pas deux noms distincts d'Hachem. C'est le même nom, mais ça dépend à quel étage tu l'as pris.
Donc ça.
De base, Akadosh Baruch Hu donne, Chesed, il a envie de donner, il est gentil. Mais le problème, c'est que des fois, Akadosh Baruch Hu doit contracter. Maintenant, le problème, c'est que quand tu contractes, quand tu contractes, ça veut dire que tu réduis, le bénéficiaire, celui qui, l'utilisateur final, celui qui va en recevoir, ne va pas le voir forcément comme une bonté. Lui, il va le voir comme un voile. Parce que, donnons un exemple très simple. Imaginez que vous avez la lumière du soleil qui est très forte. Elle est trop forte pour vous. Donc, votre femme ou votre maman, ou je ne sais pas qui, ça dépend quelle vous avez, elle va mettre un rideau devant vous. Pour atténuer la lumière du soleil.
Ou un écran.
Qu'est-ce que vous voyez devant vous?
Un rideau.
Un rideau. Donc vous dites, c'est qui cet imbécile qui a mis un rideau? Pourquoi il a mis un rideau? Il me réduit, il me contracte. Donc tu comprends pas que celui qui t'a mis le rideau, en vérité c'est pour ton bien, c'est pour pas que tu brûles. D'autant plus si celui qui a amené la lumière est le même que celui qui a mis le rideau. Oui. C'est lui qui envoie la lumière et en même temps il met le rideau. Pourquoi il fait ça?
Magen.
Magen, exactement. Il veut te protéger. C'est le même. C'est pas deux. C'est pas le père qui allume la lumière et la mère qui dit attends, mets un rideau. C'est le même. Et c'est lui qui allume la lumière et c'est lui qui met le magen. C'est lui qui met le bouclier. Donc là, ça te donne une autre lecture sur la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. La rigueur d'Akadosh Baruch Hu n'en est plus vraiment une. C'est vrai qu'elle est perçue comme une rigueur, mais c'est pas vraiment une rigueur. C'est une façon d'adapter la bonté s'il le faut en l'atténuant. Adapter la bonté. Parfois, pour adapter la bonté, il faut carrément l'effacer, pour que la personne comprenne que pour la personne se prépare à la recevoir. Mais c'est qu'un moyen de recevoir la bonté. Donc Dieu est intrinsèquement bon. Alors Rabbi, toujours, quand il parlait en français, quand il voulait dire Dieu, il disait le bon Dieu.
Oui.
Le bon Dieu. Le bon Dieu. En français, en Eibersteher. Eibersteher, c'est celui qui est en haut. Mais chaque fois que Rabbi parlait très bien en français, chaque fois qu'il parlait en français, on a des enregistrements, il disait le bon Dieu vous donnera, le bon Dieu. On a vu aussi cette semaine dans le cours de Shabbat, on a vu dans le Rambam Maïmonide, Ha'el Atov, le bon Dieu, oui. Le bon Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon.
Okay.
Très important à comprendre ça.
Est-ce que tu parles de ces enregistrements-là? C'est bien un
thème de soir. Ah oui, Bachelet, oui, un lesbécien, bien sûr.
C'est intéressant, moi j'ai jamais entendu parler en français. Ça
doit être... Oui, avec un petit accent russe, évidemment, mais oui, il parle très bien. Donc, maintenant on commence à comprendre qu'en vérité Dieu est bon. Mais seulement, parfois Dieu a besoin de se contracter. Le soleil et le bouclier. On va continuer. Vehine, elle en y va dans les mots. Là, on va aller point par point. Page 49, un peu après le milieu de la page. Vehine. Vehine, besidur shvachav shel Hakadosh Baruch Hu. Dans l'ordre de l'énumération des louanges de Hakadosh Baruch Hu. Comme on le dit dans la Mida, on dit Hagadol, Hagibor. Oui, on dit Hagadol, Hagibor.
Il y a un ordre.
Dieu qui est grand. Et qui est fort, ce qu'on a expliqué. Au pire, ou Hagadol, c'est quoi Hagadol? Quand on dit que Dieu est grand, c'est quoi le terme grand? Grand, en hébreu, ça signifie l'infini. Parce que, quand tu dis grand, c'est quoi grand?
Ben, c'est limité déjà.
Moi, quand je dis grand, je dis, il y a une petite bouteille, il y a une grande bouteille. Pour moi, cette bouteille, elle est grande, parce qu'il y a une petite bouteille à côté. Mais pour celui qui a une autre bouteille à côté qui fait 5 litres, il va dire, celle-là, elle est petite.
Oui, c'est relatif.
Maintenant, pour celui qui a une bouteille de 5 litres, mais qui a à côté une autre bouteille de 20 litres, il va dire, celle-là, elle est petite.
Bien sûr.
Le problème, c'est que quand tu dis que Dieu est grand, il est grand par rapport à qui?
Ah, la relativité, c'est relatif.
Donc, c'est l'infini. Donc, Dieu est grand à l'infini.
Infiniment grand.
Il est infiniment grand. Parce que, Toute mesure que tu vas t'imaginer dans ta tête, imagine-toi qu'il y a peut-être une autre personne qui le voit encore plus grand. Tu sais, c'est comme dans les maths. T'as les ordinateurs qui vont faire des super calculateurs, qui vont faire des calculs et on va aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Mais on sait que demain, il y aura un autre ordinateur qui va aller encore plus loin. C'est comme ça. Et donc, on sait que Gadol, en vérité Gadol, c'est à l'infini. Ça, si c'est pas de la bonté, c'est quoi? Le fait que Dieu peut donner à l'infini. Et toi, tu dis, bon, Hachem, l'année dernière, elle était comme ça. Cette année, si tu veux me donner ça, c'est pas mal. Toi, tu dis, par rapport à l'année dernière, Hachem, il dit, mais moi, je peux tout te donner, moi. Moi, c'est Gadol. Gadol, ça veut dire, t'es à la source.
Oui, mais il pose des conditions pour...
Attendez, ça, c'est après les conditions. Les conditions, c'est après.
Pour l'instant, c'est la définition.
Très important de comprendre ça. Que les conditions et les restrictions viennent après l'envie de donner. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu il dit, ouais, je vais leur mettre des règles. Après, il dit, bon, je vais leur donner. C'est le contraire. D'abord, il dit, je vais leur donner. Après, il dit, bon, je vais leur donner. Maintenant, il faut réfléchir comment on va donner. Mais d'abord, il donne. D'abord, Gadol. D'abord, il envoie le soleil. Après, il envoie le bouclier. C'est pas qu'il a conçu le bouclier. Après, il dit, bon, il faut bien le faire fonctionner, le bouclier, vas-y, envoie un peu de lumière. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, Hachem, il envoie la lumière. C'est très important, ça. Il faut le ravasement, il nous a dit, un des problèmes qu'on a chez les Français, c'est qu'un Français, quand il lui propose quelque chose, il a tendance à te répondre non. D'abord, non. Là, non. C'est-à-dire, tu lui dis, est-ce que tu veux venir à un cours de Torah? Est-ce que tu fais un mitzvah? Instinctivement, il a envie de répondre non. Après, il va dire, pourquoi? J'ai dit non, on va dire oui. Mais l'Américain, hein, c'est le contraire.
D'accord? Le chinois.
D'abord, il dit oui. Pas problème. D'accord? D'abord, il dit oui. Et après, attendez. Mais après, il dit, oh, il y a problème. D'accord? Mais d'abord, il a dit oui. D'abord, hein, il vous dira oui. Ça veut dire quoi? Là, vous dire non.
Il dit oui, il vient pas. C'est comme s'il a dit non.
Non, mais ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de celui qui dit d'abord je crée les règles et après je vais mettre un peu d'énergie dedans. D'abord je crée la rigueur et après je vais mettre un peu d'énergie. Mais t'as l'approche inverse qui te dit non. D'abord j'envoie, je dis oui. Après je dis bon, je suis embêté, je me suis engagé, comment je vais faire? Je dis bon, alors on va commencer à mettre des restrictions, on va dire ça ce mois, ça dans 2 mois, ça dans 3 mois, on met des règles. Et bien si vous voulez, Hakadosh Baruch Hu est comme ça. Il est d'abord Gadol avant d'être Gibor. Il est d'abord grand D'abord, il veut donner à l'infini avant de devoir se contracter. Ok ? On va continuer. Donc, quand on dit gadol, grand, c'est quoi grand ? Grand, c'est qu'il est grand à l'infini. Ça veut dire que Dieu peut générer des créatures et des mondes sans fin, à l'infini. Parce qu'il est grand. Et grand, ce que toi t'appelles grand, c'est, on ne peut pas comprendre, comme c'est écrit dans les Hachré, « Velikdoulato en reker ». Sa grandeur n'est pas sondable.
Sondable.
Je ne peux pas la sonder. Hein? Elle est insondable. Pourquoi ? Parce que je ne peux sonder que ce que je peux comparer. Mais ce que je ne peux pas comparer, et que chaque fois que j'ai un référentiel, on me dit « Oui, mais ton référentiel n'est pas le bon, il y en a un qui est encore plus grand. » Donc, je ne peux pas le sonder. En reker. Velikdoulato en reker. Je ne peux pas sonder. Donc ça, c'est la bonté infinie d'Hachem. Donc là, on comprend que le mot gadol, c'est une bonne question que vous avez posée, M. Benito, tout à l'heure. Le mot gadol, ici, n'est pas « il est grand, c'est le patron ». Non, ça veut dire « il est grand, il peut tout faire ». Et donc, il donne à l'infini. Ok. Et donc là, on parle de créatures. « Vekayemi b'chesed chinam ». Si on n'avait que le nom de Hachem, on aurait toutes ces créatures, effectivement, « Vekayemi b'chesed chinam », qui soient créées ex nihilo et maintenues par bonté gratuite. C'est quoi une bonté gratuite ? Ça veut dire que même s'il ne mérite pas. Sans devoir. Il n'y a pas de devoir. Pas besoin. Hachem, il dit, je donne, je paye. Coco. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de travailler. Il a de quoi tout payer. Il peut tout faire. Pourquoi il a besoin que je fasse un effort ? C'est le coup de coup. Qu'est-ce que je ramène avec mon effort ? Il n'y a pas besoin de ton effort. Quand Hachem, il décide de donner, il ne dit pas, je vais donner, mais attends, j'attends de voir s'il faut un effort ou pas. Quand Hachem, il décide de donner, il dit, j'ai envie de donner. Très très important à comprendre ça. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont passés par Rosh Hashanah, par Kippour, etc., et même par Sukkot, ils se disent, ah mon Dieu, il va réfléchir s'il va me donner ou pas, il va voir, peut-être oui, peut-être non. C'est une erreur fondamentale de penser comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu d'abord il dit, je donne. C'est-à-dire quand il y a Rosh Hashanah, Hachem il dit, je donne. Après, Hachem, après il y a une deuxième pensée qui vient, il dit, bon, mais je donne, mais concrètement, faut voir par rapport à l'année précédente, pour qu'il passe une meilleure année, comment on va faire, comment on va adapter, etc. Mais d'abord il a dit, je donne. D'abord il a dit, je donne. Shana Tovam Tuka. Il a donné. Après, il y a les détails. Comment on va faire? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va réduire? Est-ce qu'on va pas réduire? Ok. Alors, donc, Akadosh Baruch Hu d'abord donne à la bonté infinie. Venikrel Gdoula. Et on appelle ça la grandeur. Je vais tourner la page. Ki ba'a migdoulato shel Akadosh Baruch Hu birvado ba'atzmo. Pourquoi on appelle cette mida, ce trait de caractère, cet attribut d'Hachem, on l'appelle grandeur? Parce que ça vient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en personne. Parce que c'est Kaviachol, qui gadol Hachem, velik de la tendreker, comme on a dit. Dieu est grand, comme c'est écrit dans Hachré, et sa grandeur, en treker, est insondable. Ok. Mais la reine, nimmashpi agam kenchayu vitavut maïlech volamot ouvrim l'enquête. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu dispense la vie et l'existence ex nihilo à des mondes et créatures sans limite, chez Teva Hatov Leiti, parce que Dieu a la bonté, la nature du bien pour faire le bien. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Vous savez, quand un patron il a une entreprise et qu'il va avoir, par exemple, il va donner des payes à 500 personnes, 1000 personnes. On va poser la question à ce patron, on va dire, pourquoi tu payes ces gens-là ? Pourquoi tu les payes ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Pourquoi tu les payes ?
Hein ?
Ah, parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils me fournissent un travail. Et comme ils me fournissent un travail, je dois les payer. C'est normal. C'est donnant-donnant. Maintenant, si je pouvais obtenir ce travail sans les payer... Je les aurais pas payés.
Il faut retourner en Égypte.
D'accord ? Non, mais ça change pas. Même si vous êtes esclaves, il faut les nourrir. Faut les nourrir, etc. Tout coûte des sous. Ça coûte de l'argent. Donc pourquoi le PDG, il a payé les employés ? Il paye les employés parce que les employés lui fournissent un travail. Donc il y a une raison. Pourquoi il donne ? C'est pas parce qu'il est altruiste, c'est pas parce qu'il est généreux. C'est pas du tout. C'est parce que moi j'ai besoin d'un service. Mais j'ai de l'argent, et toi tu peux me donner le service, donc on va échanger. Toi tu fais le service et moi je donne l'argent. C'est pour ça que ça fonctionne. Ou bien moi je vais gérer l'entreprise qui va générer les services, etc. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que Akadosh Baruch Hu dit je vais les faire bosser et en contrepartie de ce qu'ils font, je vais leur donner, une paye. Bien que, c'est vrai, on parle de paye, on dit que c'est un salaire, on a l'impression, voilà, nous on le pense, pour nous on voit ça comme un salaire. Donc je dis bon, Hachem il a mis des employés sur la terre, si on travaille, on reçoit, on travaille pas, on reçoit pas. Donc Hachem c'est un PDG, c'est le plus grand PDG du monde. Réponse du Tania et du Zohar, basé sur le Zohar, il dit c'est faux. Tu dois comprendre que Akadosh Baruch Hu c'est Teva Hatov Leitiv, c'est la nature du bien pour faire le bien. Parce que finalement, Quand on se pose la question, le PDG de l'entreprise, il fait du bien, il donne des payes. C'est bien de donner des payes. Mais c'est pas le bien pour le bien.
Non, il a quelque chose.
C'est le bien par intérêt.
Contre un service.
Donc c'est le bien parce que c'est une paye. Avec cette paye, les gens ils vont se nourrir, ils vont se loger, ils vont se vêtir, ils vont aller en vacances, etc. Donc c'est du bien. Mais c'est pas la nature du bien pour le bien.
Par intérêt.
C'est la nature du bien hein, par intérêt. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est Teva Hatov Leitiv. C'est la nature du bien pour le bien.
Vous
savez chez qui on retrouve ça? Chez quel patriarche on retrouve ça? Abraham. On dit qu'Abraham, il était comme ça. Abraham, il avait cette nature de donner pour donner. Sans attendre de recevoir quoi que ce soit en retour. Dans la vie, on attend toujours un retour. Alors, ou un retour immédiat, ou un retour un peu plus tard, mais on attend toujours un retour. Mais celui qui a vraiment une nature de teva, tov, leitiv, de la nature du bien pour faire le bien, c'est le bien sans aucun retour. À tel point, on dit que la midat achès, ça va être la tribu de la bonté d'Hachem. Quand Abraham était dans ce monde, elle a dit, c'est plein Hachem. Elle a dit, depuis qu'Abraham est venu, je suis au chômage. Abraham fait tout le travail. Teva, hatov, leitiv. La nature du bien pour faire le bien. Donc, ça, c'est la première facette. Vous comprenez que quand on voit cette facette d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin d'attendre aucun effort de la part des hommes. Sauf que ce que je suis en train de dire remet en question tout le système de la Torah.
Oui.
Parce que tout le système de la Torah et tout le système en général du libre arbitre fonctionne sur un système de récompense et de punition. Que j'ai le libre arbitre de choisir si je me comporte bien ou je me comporte mal. Si je me comporte bien, je serai récompensé. Si je me compare pas, je serai puni. Donc d'où est venu ce système?
D'ailleurs,
si tu me dis que c'est marqué clairement dans la Torah. Bien sûr. Mais c'est on a pas besoin d'aller loin.
Il est dans le schéma.
Quel schéma? Bereshit, semaine dernière.
Et même avant.
Adam qui a fauté pas, qui prend sur la tête, on le prévient. Tu feras si Torah, ça tu vas être dehors. D'accord? Caïn, tac, dehors. D'accord? Oui, mais tout de suite, la Bereshit, la première parachute de la Torah. Ça démarre tout de suite. On a tout de suite le système, on te dit, tu feras ci, tu seras récompensé, tu as été mal comporté, tu seras puni, tu seras à la sueur de ton front, etc.
Même dans la punition, il y a du bien qui est à l'intérieur.
Ça, c'est sûr. Alors, comment comprendre? Si tu me dis que Dieu est la nature du bien pour faire le bien, hein, quelqu'un qui est altruiste comme ça, hein, n'attend aucun retour. Donc, s'il attend aucun retour, il donne. Il distribue à tout le monde. Il se pose pas la question à ce que je distribue. Il se pose pas la question à ce que je distribue à un clochard, d'accord? Ou est-ce que je distribue un PDG, ou est-ce que je distribue à une élite, il distribue. Pourquoi dans les faits c'est pas comme ça? Si tu me dis qu'en vérité dans l'absolu à Kadosh Baruch Hu, sa pensée originelle c'est de donner sans compter, pourquoi dans les faits on voit que c'est pas comme ça? On voit que pour recevoir il faut mériter. Parce que c'est là que va se greffer le deuxième aspect, le bouclier du soleil, qui va devoir contenir cette énergie, qui va dire attends, on va leur donner, mais il faut avec certaines limites, pour leur bien.
Celui qui reçoit rien aussi, c'est pour son bien.
Oui.
Celui qui perçoit.
Je vais être clair. Personne ne reçoit rien, ça n'existe pas.
Celui qui perçoit n'avoir rien reçu.
Alors, il n'a pas ouvert les yeux.
Non,
il n'a pas ouvert les yeux. On lui a donné une carte bancaire avec le code, il n'a pas envie de regarder le code. Et qu'est-ce que je fasse, moi? Il n'a pas envie d'aller chercher le distributeur. Je peux rien faire pour toi. Rabbi Tzemartzedek qui explique comme ça. Il dit, si de toutes les façons on a été jugé à Rosh Hashanah, comment ça se fait que la Gemara nous dit qu'à chaque Amida, on est jugé. Trois fois par jour, on est jugé. Si on a déjà été jugé à Rosh Hashanah, pourquoi on est jugé tous les jours?
Attends.
On a été jugé à Rosh Hashanah.
Attends. Dans ce que tu viens de dire, il y a un truc qui est moyen. Enfin, que je comprends comme moyen.
Oui.
Quand je te dis, celui qui dit qu'il n'a rien reçu.
Oui.
Ça veut dire celui qui dit qui est à la rue, qui n'a pas de quoi manger, ou celui qui dit qu'il est malade.
J'ai très bien compris la question. Je vais répondre à la question.
Tu me dis qu'il a pas des yeux pour
c'est
voir.
C'est ce que je suis en train de te dire. Le rabbi de Tzemartzedek, il pose une question. Il dit, tu m'as dit que j'étais jugé à Rosh Hashanah. De l'autre côté, il y a une autre Gemara qui nous dit qu'à chaque prière, on est jugé. Tout à l'heure, on a fait Mincha, on était jugé. Ce soir, on fait Ravit, on est jugé. Ok? Alors, il pose une question. Il dit, mais si t'es déjà été jugé à Rosh Hashanah, qu'est-ce que le jugement quotidien, et même, plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'il va modifier? Il répond, le rabbi de Tzemartzedek comme ça. Il y a Kadosh Baruch Hu en Rosh Hashanah, il a décidé la masse d'énergie qu'il va envoyer, la masse de Racha. Maintenant, il n'a pas décidé comment ça va descendre, où ça va descendre, par où ça va passer, ça il n'a pas décidé.
Si tout va descendre, il
n'a pas décidé. Et il n'a pas décidé, Hachem n'a pas décidé les détails. C'est-à-dire, si tu veux, Hachem a décidé, il y a un compte en banque qui est plein avec tant. Maintenant, est-ce que tu auras le bon code? Est-ce que tu auras la bonne carte? Est-ce que tu auras une limite de retrait par jour? Est-ce que tu n'auras pas une limite? Est-ce que tu retrouveras le distributeur? Est-ce qu'il y aura la queue au distributeur? Est-ce qu'il n'y aura pas la queue au distributeur? Est-ce qu'il restera des bilans distributeurs? Ça, Hachem, il n'a pas décidé. C'est pas qu'il n'a pas décidé, c'est que ça, Hachem, il dit, ça, on verra au jour le jour. Et donc, c'est pour ça que je reviens à la pointe à ta question. Que, bien sûr que, de base, tout le monde a été jugé en bien. De recevoir une chaîne à Tova, en tout cas. On l'espère, en tout cas. On est persuadé, on est convaincu de ça. Ok? Seulement, ce qui va se passer après, c'est que parfois, on va pas le chercher. D'abord, on le demande pas. Combien d'histoires on a avec le Baal Shem Tov, avec d'autres tzadikim aussi, le Rabbi aussi. Des fois, il disait aux gens, il dit, mais demandez. Faut demander à Hachem.
Il demande quand même sur la terre.
Il y a des gens qui demandent pas.
Il y en a qui demandent et qui ont...
Tant que tu demandes pas, tu n'auras pas.
Il y a des gens qui disent, demandez à Hachem.
Des fois, t'as des commerciaux qui vont pour aller vendre un produit. Ils font la présentation du produit, mais après, il y a une étape très importante chez les commerciaux qui s'appelle l'étape du ask. L'étape où il faut demander, proposer, dire, alors, voilà. On a des gens qui n'osent pas faire ça. Ils disent, moi, je lui présente le produit, s'il veut, il a qu'à le prendre. Ça marche pas comme ça dans la vie. Tu demandes pas, t'auras pas. Tu veux, tu demandes. Et c'est la même chose avec le Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a tout prévu pour toi, mais il faut demander. Il faut demander. Il faut dire, Hachem, je veux. Pourquoi? C'est une autre question, mais c'est comme ça, il faut demander. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Hachem a prévu tout pour tout le monde. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle le bien? C'est une autre question. Qu'est-ce qu'on appelle le bien? Et après, il faut le demander, il faut savoir le demander. Et après, tout est relatif. Ça veut dire que ce que moi, je considère être du bien, c'est pas forcément du bien pour cette personne. C'est-à-dire que peut-être pour une certaine personne, être riche, c'est mieux qu'être pauvre. Alors que pour une autre personne, il a besoin de passer par un peu de pauvreté.
Je parle même pas de riche, une pauvre.
J'ai compris.
Je parle des extrêmes. Quelqu'un qui est malade.
Oui.
Ou quelqu'un qui
est... On sait pas. C'est les calculs d'Hachem, ça. On ne peut pas rentrer dans ses calculs. Ça, celui qui rentre dans ses calculs, c'est qu'il est capable de comprendre le chemin d'Hachem. On ne comprend pas le chemin d'Hachem. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que du bien qui vient d'Hachem. Il faut être convaincu de ça, d'accord, qu'il n'y a que du bien qui vient d'Hachem. Même si tu vois noir. Si tu vois noir, ça veut dire que le bouclier, à un moment, il a dû dire, là maintenant, à ce stade-là, je dois mettre du noir pour son bien. Mais sache que derrière ce noir-là, celui qui a mis le voile noir, c'est la même personne qui t'a envoyé la bracha. C'est la même personne. C'est le même. C'est pas deux personnes différentes. Et c'est pour ça que tout le temps, dans toutes nos prières, on dit Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Ça va, j'ai compris. Alors en français, pour simplifier, on a dit l'éternel, notre Dieu. Bon, d'accord. Mais en vérité, c'est vrai, c'est une question que mon fils m'a posée. Il dit, mais pourquoi on dit tout Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim? Dis, bon, on a compris. Dis-moi, oh Hachem Elohim. C'est très important de préciser ça tout le temps. Dire que c'est pas deux éléments distincts. C'est pas qu'il y a le bon Dieu et il y a le Dieu rigoureux. C'est le même Dieu. Le bon Dieu rigoureux.
Il y a l'enseignement de Rabbi Nachman qui dit, après il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu. Ça veut dire, derrière Elohim, il y a Hachem. Derrière le fourreau, il y a le soleil. Et la preuve, Hachem Echad, tout ça, c'est la même chose.
Hachem, bien sûr, tout est un. Tout est un. Un, Chazak. Donc, On continue à parler de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il faut être convaincu de ça, que Akadosh Baruch Hu donne parce qu'il veut donner. Teva Hatov Leitiv. D'ailleurs, vous savez, on avait parlé de ça dans le chapitre 36 du Tanya, on a posé la question, pourquoi Dieu a créé le monde? Il y a plusieurs réponses à cette question. La réponse ultime, c'était que Dieu voulait avoir une demeure ici-bas, etc. Mais il y a une des réponses qui est amenée aussi, parce que Dieu, c'est la nature du bien pour faire le bien. Il veut donner.
Il ne peut pas faire autrement.
Il veut donner. Dieu, il a envie de donner. Il a envie de donner. Mais il n'a pas envie de donner pour qu'on lui dise merci. Il n'a pas envie de donner pour avoir le kiff de donner. Il donne parce qu'il donne. C'est la bonté pour la bonté.
Mais est-ce qu'il a besoin de donner? Est-ce que Dieu a besoin de
Dieu
donner?
N'a pas de besoin. Dieu n'a pas de besoin, M. Benita. Parce que si on parle, M. Benita, si on parle de besoin, c'est qu'il a un manque. Or, Dieu ne manque de rien.
Ben justement.
Okay. Quel homme alors?
C'est une autre question. Okay, on a parlé parce qu'il voulait avoir une demeure ici-bas, mais c'est une question. Il y a un besoin. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bonté d'Akadash Banrou est une bonté absolue. On est dans un monde dans lequel tout ce qu'on fait est par intérêt. C'est très difficile de trouver des gens.
Lui aussi, c'est pareil, c'est par intérêt, parce que sinon on n'est pas là, c'est qui va faire les mitzvot? Donc il était obligé de créer un peuple créer quelque chose pour faire les mitzvot dont il a besoin. Il a besoin, apparemment.
Il n'est pas un oiseau de compagnie.
Il n'a pas besoin.
Alors, il n'a pas besoin.
Encore une fois, M. Benita, pour moi, le chidouche principal de ce chapitre fondamental dans le judaïsme, c'est un chapitre très important, ça. C'est qu'il ne faut pas voir Akadosh Baruch Hu comme un PDG qui est là, comme un comptable, qui dit, T'as bossé, bah, ton notation. T'as pas bossé, dehors. Il y a plein de gens qui s'imaginent comme ça à Rosh Hashanah Kippour. Ils disent, bah, j'ai pas mérité, dehors.
C'est vrai.
Non! C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Faut voir Hachem avec un grand sourire qui est là, qui veut te donner, mais qui parfois il doit cacher son sourire. C'est parce que si je lui montre que les sourires à ce gosse, il va faire le cancre. Donc je vais cacher mon sourire. Donc lui il va voir mon dos, il va croire que je fais la tête. Mais je souris. Teva Hatov Leiti.
Dur, hein?
Très dur. Mais c'est pour ça qu'on le répète tout le temps, Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Pour te dire, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais de la rigueur pour la rigueur, ça n'existe pas. Même la rigueur est une manière de contrôler et d'adapter le bien. D'adapter. On continue dans les mots.
Comment on est sûr que c'est peut-être dépassé, mais c'est pas grave. Comment on est sûr qu'il a bien compris, Admor HaZaken, que c'est bien ça?
C'est pas Admor HaZaken, c'est tout, c'est le Zohar, c'est la Gemara, tout le monde dit ça. Hachem, Elohim, Gadol, Gibor. Tu vois, toute la succession, c'est toujours ça. Hachem, c'est Chesed, Elohim, c'est Dim.
Il a étudié.
Non, mais ça veut dire, le Morazaka ne fait que te l'expliquer. Mais c'est la base. Les gars, il a donc dit. On est maintenant. Veiné, page 50. Au milieu de la page, un peu après le milieu. Veiné. Veiné, kemo, shemidazo et shifroche à la kadosh pao levado. De la même façon que cet attribut de grandeur et de bonté est la louange de Dieu uniquement. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut être grand comme ça. Parce que c'est une grandeur infinie. Or, qui est infini? Dieu. Aucune créature n'a la possibilité de créer une autre créature ex nihilo et lui donner la vie. On ne peut pas. Ça veut dire que l'être humain, même quand il va procréer, finalement c'est Dieu qui crée. L'être humain, la force qu'il a en procréant, et d'ailleurs, c'est pas que l'être humain qui procrée, c'est toute la nature qui va faire pousser, etc. C'est qu'il a la possibilité de susciter la création. D'être celui qui va enclencher le processus de création. Mais le seul qui crée, c'est Hachem. Et la capacité de créer d'Hachem est à l'infini. Elle s'arrête jamais. On continue. Donc, Vegamidazo, il est mal à maskalat kol ha-brim va-sagotam. Réfléchissons un petit peu plus. Cette mida, cet attribut, l'attribut d'Hachem, de créer ex nihilo, c'est également quelque chose qui est au-delà de la conception de toutes les créatures et de leur compréhension. Ça veut dire, est-ce qu'une créature peut comprendre comment elle a été créée? Non. Est-ce que la créature peut comprendre comment elle a été créée? Non, elle ne comprend pas.
S'il l'a inventé, il faut savoir.
Non. Il explique, le Morazaka, il te dit, la notion de création est une notion qui dépasse l'intellect humain. L'intellect ne peut pas comprendre comment on peut créer. L'intellect ne comprend seulement les transformations. L'intellect dit, je sais ce que c'est, par exemple, je prends du pétrole, j'en fais du plastique. Ça, je comprends. C'est devant moi, tac, je prends, je modifie, je fais du plastique. Maintenant, va expliquer à l'intellect que la bouteille qu'il y a devant moi, en vérité, c'est pas du plastique, c'est pas du pétrole transformé. En vérité, c'est une énergie divine qui est en train de le créer ex nihilo maintenant. Je ne comprends pas. Et je ne le comprendrai jamais. Parce que mon cerveau est une créature. Et une créature ne peut jamais comprendre son créateur. C'est pas possible. Ça, c'est Gadol. Donc, Admor HaZaken, ne sois pas étonné si tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Dans les mots. She'en Kohar Besechel Shum Nivra, puisqu'il n'est, page 51 en haut. She'en Kohar Besechel Shum Nivra, puisqu'il n'est dans la capacité de l'intellect d'aucun être créé. Le'askil ou Le'asig Midazo, de concevoir et de comprendre cette Mida. Comment Dieu fait-il pour créer à partir du néant ex nihilo? On peut pas comprendre. Mais pourquoi on peut pas comprendre? Parce qu'on n'a pas cette mida de grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ki abriya yeshme ayin, id davar shel malam yisrael nivrayim ki midat gulotosh Akadosh Baruch Hu. La création ex nihilo est quelque chose qui dépasse l'intellect des créatures, puisque ça découle directement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce que Dieu a envie de donner. Il n'y a pas de raison. Et donc tu ne peux pas comprendre. Mais une fois que les créatures ont été créées, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va commencer à cadrer tout ça. Mais d'abord, il les a créées. Et il les a créées parce qu'il avait envie de les créer. Et parce que il a envie de donner.
Il n'aimerait pas qu'on aille un peu plus loin dans la recherche, dans l'explication.
Non, mais c'est très important de comprendre ça. De comprendre que il ne faut pas donner des raisons à Dieu pourquoi il a créé le monde.
Non, par exemple, mais il n'aimerait pas qu'on aille un petit peu plus loin dans la...
Non. Il faut comprendre que de base, parce que j'ai expliqué le problème, c'est que si c'est très important à comprendre ce qu'il dit ici, parce que sinon on passe à côté de la plaque. Regardez, vous parlez à un PDG qui est là, d'accord ? Mais prends un PDG, un créateur d'entreprise, qui va investir, il a une grosse affaire, il va investir 1 million d'euros. Donc il va dépenser 1 million d'euros. Il avait 1 million d'euros dans son compte en banque, d'accord ? Il va les dépenser, d'accord ? Pourquoi il va les dépenser ? Voilà, tu lui poses la question, pourquoi tu as dépensé 1 million d'euros ? Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a embauché du monde, il leur a donné des sous. Donc si tu t'arrêtes là, si tu fais un zoom ce moment, tu dis, bon, on a quelqu'un qui a pris des gens, qui lui devait rien, il leur a donné des payes pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Il a financé les gens, il a pris 1 million d'euros, il a financé des centaines de personnes pendant 4 ans, pendant 5 ans, sans rien recevoir en retour. Il dit, Mirmar, t'as pas compris ? Il a mis 1 million d'euros. Pourquoi il a mis 1 million d'euros ? Parce qu'il comptait récupérer 10 millions en vrai. Donc toi, tu vois, tu dis, mais il a mis 1 million d'euros. Mais il a mis 1 million d'euros. Il a pas donné 1 million d'euros. Il a investi 1 million d'euros. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils pensent à Dieu, ils s'imaginent de la même façon. Ils disent, Dieu, il a investi la mise de départ. Il a créé le monde, etc. Donc il a investi. Donc, et après, Dieu dit, maintenant, à vous de bosser. Et maintenant, retour sur investissement.
Donc
il y a des gens qui pensent comme ça. C'est une erreur fondamentale de penser comme ça. Parce que là, tu t'imagines Dieu comme un patron qui a fait un investissement et qui attend le retour sur investissement. Alors, moi, ils appellent ça ROI. Hein, et voilà, ROI. Réponse de la Dvorah Zakhen, réponse du Tania, c'est faux. Retour sur investissement. Réponse de la Dvorah Zakhen, il te dit c'est faux. Dieu, quand il te met le million d'euros, il ne dit pas je mets le million d'euros pour récupérer 10 millions d'euros. Il dit je mets le million d'euros parce que j'ai envie de mettre 1 million d'euros. J'ai envie de financer tous ces gens-là. J'ai envie de leur donner à manger. Seulement après, je me dis, pour le bien de ces gens-là, pour qu'ils apprécient la paie qu'ils ont reçue, on va donner un petit travail. Donc on va créer des travaux qui ne servent à rien en vérité. C'est une autre question, ça, d'accord ? On va leur donner des travaux, mais en vérité, des travaux qu'on aurait pu ne pas leur donner. Moi, j'ai envie de leur donner, je leur ai déjà donné. Je vais leur donner. Mais seulement pour qu'ils se sentent utiles, pour qu'ils se créent, on va leur donner un travail. Donc eux, ils vont sentir, ah, j'ai gagné la paie.
Donc Dieu investit gros sur nous, alors.
Non ! Il n'investit pas, il donne.
Mais d'accord.
Non, il n'investit pas. Dieu n'est pas un investisseur. Dieu est un donneur. Il donne.
C'est un donateur.
Il attend quelque chose de vous. D'ailleurs, vous savez, c'est une bonne question. Parce que moi, à mon avis, le vrai donateur n'existe pas. Il y a toujours quelque chose que tu attends en retour. C'est normal. Ou tu attends un plaisir en retour. D'accord ? Ou tu attends. Non, peu importe. Même quelque chose de. Ou une prière. Ou une bracha dans ta parnassa. Ou une mitzvah. Ou un gan eden. Tu attends quelque chose. Tu as quelque chose. Le vrai donateur. Qui donne.
Anonyme.
Non, mais c'est pas anonyme. Même anonyme. Qui donne pour donner sans rien attendre de retour. Mais rien. Pas seulement rien attendre de retour de celui à qui tu as donné. Rien attendre de retour de personne, de qui que ce soit. L'altruisme absolu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Donc Abraham, il n'existe pas.
Non. On dit qu'Abraham lui donnait la possibilité de donner sans attendre de retour. Mais concrètement, on attend toujours un petit peu en retour. Il y a un exemple qui ramène le Zohar. Le Zohar ramène un exemple. Il dit que l'exemple le plus proche qu'on peut trouver, c'est ce qu'un enfant donne pour son père. Que normalement, si un enfant il aime son père, il aime plus que lui-même. Pourquoi il va donner à son père ?
Il veut faire plaisir à son père.
Pourquoi faire plaisir à son père ? Hein ? Ah, c'est compliqué. Donc vous voyez, il ne faut pas voir un Kadosh Baruch Hu comme un investisseur. Un Kadosh Baruch Hu n'est pas un investisseur. Un Kadosh Baruch Hu est un donateur. Il donne. C'est tout. C'est pas un financier. C'est pas un business angel exactement. C'est rien de tout ça.
Il n'a pas un retour. Non.
Non. Oui, mais ça c'est la phase B. La phase 1, c'est Hachem, il dit je donne pour donner. Après, dans la phase B, Hachem va simuler à attendre un retour.
La phase B.
Pour ton bien.
Oui, pour retourner.
C'est un 78 tours.
Mais ça, vous allez me dire, monsieur Vinitin, ça change quoi ? Dans les faits, je dois avoir un retour.
Tu retourneras au mitzvot, c'est le magen ?
Bien sûr. tout le système qu'Hachem a créé, c'est la phase 2. Ça, c'est le système.
Donc, il attend le retour.
Non, mais seconde, c'est pas la même chose.
La phase B.
Phase B.
Mais tout est dans l'intention. C'est-à-dire, si l'intention de départ est de donner, donc tu comprends que tu peux jouer avec ça. Tu dis, bon, il veut donner, ça met même une règle. Alors bon, on va lui faire comprendre qu'on peut pas, etc. On peut discuter. Mais si c'est un investissement, vous savez, un investisseur, il connaît son retour sur investissement. Et si ça, s'il y a pas, il coupe.
Il sait quel est son risque.
Et il sait quel est son risque. D'accord? C'est un risque calculé. Il sait jusqu'où il peut aller. Dès qu'il voit que ça marche pas, hop, on coupe. Hein? Comme ils font Google. Ils investissent pas. Dès que ça marche pas, on coupe. Hachem, il coupe rien. Hachem, il dit, on coupe, on donne. S'il faut, parfois, on fait des petits ajustements. On va adapter pour se le rappeler qu'il doit travailler pour son bien.
Enfin, d'autres fois, vous avez dit, que effectivement.
Il fait l'avocat là.
Allez-y Charles.
En date du.
Maître Charles. Oui, parce que vous avez dit que la mitzvah, elle est là, elle est au ciel, elle est suspendue.
Oui.
Et on attend en fonction.
Mais ça, c'est déjà après ça. Ça, c'est une fois que.
Il n'a pas donné.
Ça, c'est déjà Elohim ça.
Elle est suspendue, elle n'a pas donné.
Ça, c'est déjà Elohim. Faire dépendre le bien qu'on donne à l'homme par rapport à la mitzvah qu'il va faire, c'est déjà la phase 2. C'est comme nos enfants. Est-ce que tu réfléchis pourquoi tu donnes à ton enfant?
Pourquoi tu les as fait?
Pourquoi tu donnes un enfant? Pourquoi tu lui donnes?
Parce que t'as envie.
Alors t'as les opportunistes. T'as les gens, les calculateurs, qui vont dire je lui donne, parce qu'un jour il me le rendra. Je lui donne, parce qu'il va me donner, etc. Mais en vérité, la vérité, c'est quand tu donnes à ton enfant. Pour deux secondes, pourquoi tu lui donnes? Quand tu es parti au magasin pour acheter un cadeau à ton fils, pourquoi tu lui as acheté un cadeau? Parce que tu l'aimes.
Bah oui, c'est ça ce qu'il fait.
Seulement, comme t'avais pas envie de donner un cadeau comme ça, parce que si je donne un cadeau comme ça, il va venir pourri gâter, et que pour son bien, c'est pas bien d'être pourri gâter, donc je vais lui dire, pour recevoir le cadeau, faut que t'aies des bonnes notes.
Ouais.
Bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le cadeau était la paye pour la bonne note? J'espère pas. J'espère pas. Maintenant, lui, à ce stade-là, il a compris comme ça. Il a compris que j'ai travaillé, donc j'ai reçu une paye, et la paye, c'est le cadeau.
Tu as raison.
Mais il a pas compris qu'en vérité, le cadeau, il aurait reçu, dans l'absolu, il aurait reçu le cadeau, même sans l'effort, même sans les bonnes notes. Et la maille, seulement quoi, hein. Comme je veux pas que ça pourrait gâter, je lui dis, bon, t'auras des bonnes notes. C'est tout. Mais de base, je vais lui donner un cadeau.
C'est un leurre, en fait.
Exactement, c'est la phase 2, c'est le bouclier. C'est je protège mon enfant du cadeau que je suis en train de lui donner.
Ouais.
Je le protège des effets néfastes du cadeau que je suis en train de lui donner. Je veux qu'il reçoive le cadeau et je veux que le cadeau que je lui donne ne lui soit que bénéfique. Donc je lui donne le cadeau et après je prépare l'antidote en même temps pour ne pas que le cadeau lui fasse du mal. Mm-hmm. C'est très fort ça. Bon, quelqu'un il t'a donné un cadeau, il dit même, je te donne un cadeau, je te donne un Boeing. Faire quoi avec le Boeing, moi? C'est un cadeau empoisonné, ça. J'ai pour faire le plein. Faire le plein, tu payes 50 000 euros par jour pour place de parking, je sais pas combien. C'est quoi, une blinde, quoi. Donc c'est un cadeau empoisonné, mais tu te donnes un Boeing. Ça vaut 200 millions d'euros, je sais pas combien ça vaut.
Je fais quoi avec?
J'ai mis dit, quand je te donne le cadeau, mais je te protège des effets néfastes du cadeau. Hagadol Hagibor. Ah, ça c'est le 737 Max, ça, le 700.
C'est
vrai, ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai marié ma cousine ce soir, donc j'ai pas voulu, annuler le cours.
Pas d'intérêt.
Là, je vais le rejoindre.
Il fait cadeau.
Ça c'est très très important de retenir ça. C'est une image extraordinaire ça. Alors, on continue à son prochain studio.